Vous écoutez France Culture.
Le Salon Noir aborde cet après-midi un bien funeste sujet, la mort, cette souillure temporaire qui, dans le monde romain, affecte par contagion l'ensemble de la maisonnée. Aujourd'hui, qui s'occupe des morts, leurs proches, bien entendu, assistés des personnels des pompes funèbres et des cimetières. Dans un autre registre, ajoutons les archéologues, une profession qui, curieusement, s'est même parfois spécialisée sur ce sujet via l'archéo-anthropologie funéraire, voire l'archéo-thanatologie. Pour preuve, Christian Goudineau et Jacques Lasfargue viennent de lancer une grande exposition d'intérêt national au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, post-mortem, dont le titre primitif était « Mourez, nous ferons le reste ». Christian Goudineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, avez voulu, avec votre ami et complice Jacques Lasfargue, faire découvrir aux Français les rites funéraires à Lyon, le culte des morts en Gaule romaine. Christian Goudineau, à partir des vestiges exhumés par les archéologues, rien n'est toutefois plus difficile que de restituer la relation à la mort qu'entretinrent les vivants, disons, d'il y a 2000 ans.
Bien sûr. D'ailleurs, votre présentation me plaît beaucoup parce qu'elle montre finalement l'ambiguïté des relations que nous pouvons avoir nous-mêmes avec la mort. Lorsque Jacques Lasfargue et moi avons proposé ce titre « Mourez, nous ferons le reste », c'était au fond pour dédramatiser, pour dire la mort, hélas, selon toute probabilité, vous n'y échapperez pas. Mais regardons un peu comment la société se conduit vis-à-vis du disparu. Et mourir nous ferons le reste, c'était de montrer eh bien, tous les rites, et éventuellement d'ailleurs plus que ça, que la mort entraîne, hein, y compris des conduites marchandes et autres. Bon. Et ça n'a pas été accepté. C'est-à-dire ceux qui financent l'exposition ont dit « vous ne pouvez pas avoir un tel titre ». Hein. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des malades dans leur famille. Impossible. Donc la mort, c'est une espèce de dramatisation terrible à laquelle on échappe difficilement. Or pourtant, si on veut montrer des rites funéraires comme nous, on a essayé de le faire en reconstituant des cérémonies, en reconstituant une nécropole, bon, il faut avoir un regard qui est un regard extérieur. Il ne faut pas s'impliquer soi-même.
Christian Goudineau, déjà en 1989, lors d'une grande exposition sur 30 ans d'archéologie en France, au Grand Palais, la chose avait été plus ou moins refusée ?
Ah, vous savez tout. Oui, effectivement. Moi, j'avais proposé qu'il y eut une reconstitution de nécropole et puis que sur un mur d'images, on puisse projeter le film de Chéreau et Boulez, qui représentait la mort de Siegfried. Bon, et effectivement, ça a été mal pris. Alors, on met des vitrines, on met des objets. C'est pas ça. Quand on va aujourd'hui dans un cimetière, on voit autre chose.
Rappelons, comme le signale Louis-Vincent Thomas, que malgré la disparité dans le temps et l'espace, les conduites funéraires obéissent à des constantes universelles.
Tout à fait. Et les constantes, c'est d'abord de la défense, parce que la mort représente, bien entendu, dans toute société, une souillure, même une souillure de type physique. Il faut des rites que Vincent Thomas appelle des rites de déculpabilisation. C'est en même temps, à certains endroits, la manière d'exprimer une hiérarchie sociale. Il y a aussi le culte des morts, il y a des cérémonies qui sont des cérémonies régulières. Donc, vous avez aussi même une dialectique entre les espaces réservés aux morts ou réservés aux vivants. Tout ça, c'est complexe, ça obéit à des mêmes principes, mais vous pouvez très bien être à 20 km ou à 40 km dans une île, par exemple, comme Madagascar, et vous verrez les ethnies qui n'ont pas les mêmes cérémonies et qui n'ont pas les mêmes pratiques funéraires.
Les rites contemporains, ceux autour des dépouilles, par exemple de la princesse Gyeleni Vadhana de Thaïlande, François Mitterrand, Michael Jackson, nous font aussi réfléchir.
Oui, bon, vous faites allusion à l'introduction que j'ai écrite pour le livre qui accompagne l'exposition. Mais de fait, j'ai été absolument, émerveillé par les obsèques de la sœur du roi de Thaïlande. Alors, quand vous imaginez tout ce qui a entouré ce décès, donc elle a plus de 80 ans, elle est victime d'un cancer ou quelque chose comme ça, et elle meurt il y a peu longtemps, hein, c'était l'année dernière, enfin, un an et demi, 2008, novembre, ou janvier 2008, je ne sais plus rien. Bon, elle est dans le grand palais du roi de Thaïlande. Là, elle est embaumée. Elle reste pendant 6 mois. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Ce sont des rites complètement privés, qui sont secrets et qui se déroulent autour d'elle. Et pendant ce temps-là, sur la grande place de la capitale, on édifie une espèce de pavillon crématoire absolument hallucinant, genre Sacré-Cœur, si vous voulez, qui fait 39 mètres de haut, qui est revêtu de plaques dorées, et cela uniquement pour l'incinérer. Et elle est incinérée, et là encore, la cérémonie est une cérémonie bouddhiste réservée à la famille. Et c'est seulement après qu'il y a les grandes obsèques, où vous avez 100 ou 200 000 Thaïlandais qui sont là, toute la famille royale, les prêtres qui s'agitent, et un char qui transporte l'urne cinéraire, et qui est un char vieux de plusieurs siècles, qui pèse 7 tonnes, qui est recouvert d'or. Bon, les obsèques ont coûté, je ne sais combien, mais des sommes absolument hallucinantes. Alors que ni vous ni moi n'avions entendu parler ni du roi de Thaïlande, parce qu'il ne joue guère de rôle politique hein, ni de sa sœur, encore qu'il ait été professeur de français.
En revanche, en novembre 2008, je suis passé à Bangkok, et juste avant la crémation, je suis passé devant cette place, et tout le monde ne bruissait que de cet événement. C'était un grand événement, bien sûr. Collectif. François Mitterrand.
Ben, que dire de François Mitterrand ? Moi, ce qui me frappe, c'est que dans, je sais pas, 1000 ans, 1500 ans, en admettant que, comme les archéologues d'aujourd'hui, on ait perdu les archives, on ait perdu l'écrit. Bon. Est-ce que quelqu'un se rappellera, enfin, pourra évoquer d'abord cette double cérémonie, tout à fait hallucinante ? L'une à Notre-Dame, l'autre à Jarnac. Double cérémonie. Des concours de foule extraordinaires. Et de tout ça, quoi ? Un petit mausolée familial dont il ne restera peut-être rien, alors que aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent le visiter et il reçoit des lettres. Il reçoit des lettres à son nom, avec des bouquets de fleurs. Bon, voilà des choses étonnantes. Mais on a aussi bien une relation arabe du IXe siècle parlant d'un enterrement dans un peuple qui doit être plus ou moins apparenté aux Vikings. Bon, l'arabe est absolument incrédule devant tout ce qui se déroule, y compris...
La barque.
Oui, non seulement la barque, mais y compris des esclaves sexuels. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça nous emmènerait trop loin. Donc, tout ça pour dire qu'il est extrêmement difficile de connaître autre chose que les vestiges matériels et puis quelques vagues textes que l'on peut, par chance, retrouver dans les littératures anciennes. Et je dis par chance parce que ce qui va de soi on ne l'écrit pas. Et d'autre part, le sujet est parfois un peu gênant, donc on préfère l'éviter.
Pour deux mots peut-être aussi autour de François Mitterrand, qui avait plus qu'envisagé de se faire inhumer dans un lieu ô combien symbolique de Bourgogne, et surtout pour vous, au lieu de la protohistoire française.
Oh là là, vous me poussez, vous me poussez à des indiscrétions. Oui, François Mitterrand, lorsque je l'ai vu... La dernière fois, c'était la deuxième cohabitation. J'étais président du conseil scientifique de l'opération Bibrac de Montbeuvray. Je lui avais dit combien j'étais inquiet pour la survie de l'opération. Il m'avait dit « j'ai mon idée ». Et peu de temps après, j'ai su qu'il envisageait d'acquérir une petite parcelle tout en haut du mont pour manifestement s'y faire inhumer. Il y a eu une indiscrétion dans la presse, dans l'événement du jeudi, si je me rappelle bien, et les gens sur place, au lieu de dire « oui, quelle belle idée, hein, c'est super, il a toujours aimé, c'est son canton, etc. », on dit « non, c'est complètement faux ». Il a été très facile de prouver que c'était vrai, puisqu'il y avait eu une délibération de je ne sais plus quelle instance à ce propos. Donc, voilà, une généreuse idée, là encore, ça aurait pu... Comment dire, changer certaines idées que l'on peut se faire du sort à donner à sa dépouille. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, certains personnages peuvent considérer qu'ils peuvent être utiles après leur mort. Mais comment savoir tout ça ?
Christian Goudineau, revenons sur le monde gallo-romain, qui, pour finir, n'est pas si loin. Votre exposition s'ouvre sur la veillée funèbre. Nous voici dans l'atrium entièrement reconstitué.
C'est ça, oui. Alors, bon, il faut bien comprendre que lorsqu'on fait une exposition comme celle-là, on est obligé de faire des choix. Et donc, pour l'exposition elle-même, on a fait le choix, disons, d'une famille qui est relativement au haut du pavé, quoi. Donc, une famille de grands négociants, peut-être de décurions de Lyon. Il a une maison qui est somptueuse et... Donc la veillée funèbre est organisée selon la manière qu'on connaît par des textes, à savoir le lit funéraire est dressé dans l'atrium, les pieds vers la porte. La porte en question va porter des insignes montrant qu'il y a un mort dans la maison. Il va y avoir des fleurs, des musiciens, des parfums. Et puis, il va y avoir toute la famille et puis tous les clients, les amis qui vont venir et s'incliner.
Vous tentez ici une reconstitution, un parti pris d'ailleurs dans l'exposition ?
Oui, bien sûr. On est obligé de prendre des partis pris. Bon, je sais que certains ont trouvé ça relativement kitsch. Mais je pense que les Romains ne refusaient pas ce que nous appelons le kitsch. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire que vous avez parlé de Jacques Lasargue et de moi-même, mais que nous avons eu toute une petite équipe qui nous a plus qu'entourés, et qu'en l'occurrence, par exemple, c'est Mathieu Pou qui s'est occupé de cette veillée funéraire. Nous avons eu un metteur en scène, ou un chef d'orchestre, qui est Jean-Claude Chatefaux, devrais citer, je parle, mon ami Jean-Claude Golvin, Nicolas Laudry, Sarah Ray, Hugues Avégras, Laurent Stranois, bref. C'est une œuvre d'équipe.
En tout cas, je reviens sur ce que je vous posais comme question. Vous avez un parti pris. Votre parti pris, c'est un peu la reconstitution et non pas l'habituelle vitrine d'objets
non,
que l'on
veut
voit
mettre,
au
on
fur et à mesure.
On veut mettre les gens en situation. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc, on commence par la vieille funèbre. Bon, quelqu'un de votre famille, votre père ou votre grand-père est mort. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous le voyez d'abord sur son lit de mort. Et puis ensuite, il va y avoir tout le cortège qui va l'accompagner vers le cimetière ou la nécropole, les espaces funéraires, dit-on, puisque le terme nécropole semble contesté parfois. Et grâce à Jean-Claude Golvin, nous avons toute une fresque de plusieurs je ne sais pas combien, 20 mètres ou 30 mètres de long, qui nous fait remonter tout le cortège avec le char funéraire, avec la famille, les amis, et avec devant, parce que là aussi, quand je vous disais tout à l'heure, il faut dédramatiser, ça commençait comment ? Au début, vous aviez une distribution de gâteaux, puis ensuite vous voyez des jongleurs, puis ensuite vous voyez des mimes, qui imitait le mort dans ses conduites familières. Bon, il claudiquait, il était moche, il était bossu, enfin, n'importe quoi. Vous voyez, et pour une femme, c'était exactement pareil. Et ce n'est que peu à peu que s'installait une certaine gravité avec les instruments de musique, puis le char. Et là, il y avait effectivement le respect. Hein, et puis le cortège au début... C'était la famille, était bien entendu en deuil, et puis à la fin, vous aviez des gens qui suivaient avec des chiens, des chats qui se marraient. Bon, voilà, hein, il faut bien voir cet ensemble. C'est-à-dire, on ne cachait pas, et c'est ça la grande différence par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre monde, hein, où il faut que les funérailles soient les plus discrètes possibles. Bon. À l'époque, au contraire, on montrait... Et c'était l'occasion aussi pour les grandes familles de montrer leur rang.
Revenons donc au début. Moi, j'ai trouvé cet atrium avec son lit mortuaire absolument superbe, mais aussi très 19e.
On peut vous le prêter si vous voulez.
Non, ça ira pas pour l'instant en tout cas. Mais je dirais très 19e, à moins que le 19e ne soit emprunt, bien sûr, d'antique, ce qui est aussi fort possible.
Bien sûr, oui. Évidemment, non, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu kitsch, mais il faut aussi impressionner un peu les gens. Bon.
En tout cas, cet espace, ce moment, je le disais, est une souillure temporelle.
Oui. Alors, tout le problème de la mort, c'est qu'il y a une souillure dont il faut se débarrasser. Et comme à peu près dans tous les aspects de la religion romaine, on s'en débarrasse de manière contractuelle. C'est-à-dire, il y a une série de rites. De même que la religion s'est passée des contrats avec les dieux, de même, pour la mort, bon, il faut accomplir un certain nombre de choses. Elles sont claires. Eh bien, il va falloir d'abord que le mort soit mis en terre, car toute ombre qui n'est pas mise en terre est destinée à, non seulement à errer, mais à revenir se venger sous la forme de larves vis-à-vis de la famille. Bon, donc, vous avez tous ces rites à accomplir le mieux possible. Vous avez ensuite des cérémonies qu'il va falloir observer au fil du temps. À l'anniversaire de la mort, lors d'un certain nombre de fêtes rituelles. Et c'est avec ça que, à la fois, vous serez tranquille et que vous aurez donné à vos morts le rang qui leur revient et le respect qui leur est dû.
Donc, bien sûr, c'est l'occasion d'accomplir toute une série de rites, tant pour honorer le défunt que de s'assurer de son départ définitif.
Exactement. Alors, pour s'assurer de son départ définitif, il y a un peu comme le croque-mort aujourd'hui, dans la veillée funéraire. Donc, non seulement on clôt les yeux du défunt, on lui met éventuellement dans la bouche et éventuellement sur les yeux la pièce qui lui permettra de payer le nocher Caron, dont on parlera peut-être, qui lui fera franchir le fleuve des enfers. Mais le fils de famille, le fils aîné, vient et se penche à son oreille et prononce son nom plusieurs fois. Et là, il s'agit à la fois de le saluer et de s'assurer qu'il est bien mort.
Une des dernières étapes est la réalisation du masque mortuaire. L'un d'eux a été découvert en 1874 à Lyon et présenté dans l'exposition.
Oui,
quelque chose de très émouvant.
Ah, c'est quelque chose de très émouvant. C'est celui d'une petite fille qui a 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est rare de trouver des masques funéraires. Donc, pourquoi on faisait ça ? Eh bien, c'était, on vous posait donc sur le visage une espèce de cire à partir de laquelle, ultérieurement, on pouvait tirer votre portrait autant de fois qu'on le voulait pour distribuer aux membres de la famille, pour l'avoir dans son tabinum, dans la galerie des ancêtres, etc. Mais en trouver, effectivement, c'est pas donné à tout le monde.
J'imagine que l'archéologie peine à restituer certaines étapes, par exemple celle dans la maison ou le cortège. Jamais on ne retrouvera les branchages de pin et de cyprès qui ornent la maison et les fenêtres de la maisonnette.
Oui, c'est peu probable, ça, effectivement. Donc on est obligé de se livrer, je dirais, à un travail de reconstitution qui est un petit peu arbitraire. Hein. Est-ce que le char, par exemple, que mon ami Golvin a montré, était tiré par des chevaux, ou au contraire, est-ce que c'était une litière portée à bras d'homme? Bon, on a pris ce parti pour faire beau, on sait que ça existe. Mais qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, on a le plus souvent la représentation, comme pour la princesse de Thaïlande, des obsèques, des très très grands, hein, des empereurs. Des impératrices. Mais du commun des mortels, pratiquement on ne dit rien.
Suis bien entendu donc le cortège qui devait, d'après ce que j'ai compris, être nocturne, même si ce n'était absolument jamais le cas. D'ailleurs, Christian Goudineau...
Non, attendez. Ouais. au début, c'était nocturne, et c'est pourquoi il y avait les torches. Mais les Romains ont un tel traditionnalisme que même lorsque ces cortèges se sont déroulés en plein jour... Il y avait des porteurs de torches.
Où va vers ce cortège ? Se dirige vers quoi ?
Eh bien, il se dirige à l'extérieur des murs, puisque la règle numéro un, c'est de ne pas mélanger le monde des morts et le monde des vivants. Ou plus exactement, le périmètre urbain est défendu de toute présence de morts. Et ça va durer jusqu'à l'emprise du christianisme, disons.
Dans le monde romain, les religions n'imposent pas de dogme. En revanche, le dernier voyage doit bien sûr faire l'objet de rites standardisés. Deux choix sont possibles, la crémation et l'inhumation.
Oui, bien sûr. C'est une constante, d'ailleurs, de l'humanité. Ça,
mais
ça
qui
varie.
Se fait inhumer? Alors, et qui se fait...
Eh bien, à Rome, disons à l'époque qui nous intéresse, c'est l'incinération, enfin à Rome, dans le monde romain, qui est à peu près la règle générale. Mais elle n'est pas obligatoire. Par exemple, on sait que de grandes familles, comme les Scipion, se sont toujours fait inhumer. Et sur la Via Appia, ils avaient leur tombeau avec des sarcophages. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Ça n'est pas une règle absolue. La règle, c'est on doit être en dehors de la ville et il doit y avoir un minimum de précautions et de rites. Mais que vous vous fassiez incinérer ou inhumer, bon, c'est une affaire d'appréciation personnelle. Et d'ailleurs, ce qui a produit le changement, ce n'est pas du tout, comme on le dit souvent, le christianisme. Hein. C'est le fait que la mode, dans la famille impériale, est revenue à l'inhumation, au IIe siècle.
Et pourquoi donc
comme ça, c'est la mode, pourquoi pas. C'est peut-être lié au pythagoricisme, je ne sais pas.
Pour se rappeler du défunt, quoi de mieux qu'une épitaphe? Ces inscriptions semblent très stéréotypées dans le monde romain, parfois même un peu à l'eau de rose.
Stéréotypé, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire, selon que vous êtes très, très, très riche et très puissant, vous aurez une épitaphe qui sera très, très longue. Si vous n'êtes pas grand-chose, peut-être que vous n'en aurez pas, ou peut-être que vous aurez qu'un morceau de bois. Non, ce à quoi vous faites allusion, je suppose, c'est qu'à partir, je dirais, du IIIe siècle, il y a effectivement tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Alors, ma femme adorable, qui a pris soin de moi toute sa vie, et à l'inverse, le mari qui a eu tous les mérites, là, c'est vrai que ça nous fait un petit peu sourire et ça nous évoque d'autres phénomènes. Dans d'autres...
Oui, vous faites un parallèle absolument extraordinaire avec d'étonnantes inscriptions mexicaines du XXe siècle.
Hein. Oui, il y a des choses très drôles, effectivement. Et voilà, qui nous montrent le décalage. Je vous donne deux exemples. Au cimetière de Mexico, ou trois. Souvenir de tes enfants, alors je ne donne pas le nom du défunt, souvenir de tes enfants, dit la stèle, entre parenthèses, sauf Ricardo, qui n'a rien donné.
Ouais, c'est extraordinaire.
Bon. Une autre. Ici repose mon épouse bien-aimée. Citation. Seigneur, reçois-la avec la même joie que je te l'envoie. Une troisième que je me rappelle comme ça, à mon très cher mari qui avait tant de mérite, mais qui était très mauvais électricien. Bon, évidemment, on aimerait voir des choses comme ça pour l'Antiquité, exactement. Mais il ne faut pas rêver non plus.
Après la mort, il n'y a rien, proclame Sénèque, mais regardons plutôt l'Énéide de Virgile, et pour lequel vient d'ailleurs de paraître une superbe édition illustrée de fresques antiques aux éditions Diane de Cellier. L'Énéide de Virgile nous éclaire et nous entraîne dans un monde insoupçonnable. Nous voici donc devant les portes de l'enfer, Christian Goudineau.
Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à tout ça? Vous voulez que je vous entraîne vers les portes de l'enfer?
Je voudrais en 30 secondes, une minute, que vous me racontiez et que vous nous fassiez ressortir de ces enfers.
Eh bien, écoutez, Aîné, prince troyen, qui après tout ce qu'on sait, la prise de Troie, etc., poursuit d'interminables errances, demande pour connaître son destin à rencontrer l'ombre de son père Anchise. Et il va vers la Sibylle de Cume, qui, après lui avoir fait procéder à plusieurs sacrifices, l'entraîne dans les enfers. Alors on peut dire quelques mots.
En 20 secondes.
Nous entrâmes dans une caverne abritant un lac noir, une grotte horrible, ténébreuse, emplie d'exhalaisons épouvantables. Au premier feu du soleil levant, le sol se mit à mugir sous mes pieds. J'entendis des chiennes hurler dans l'ombre. Instant de panique. « C'est le moment de montrer ton courage, Né, me dit-elle. Tire ton épée et suis-moi. » Alors nous traversâmes des lieux grisâtres, peuplés d'êtres inimaginables. Le deuil, les livides maladies, la vieillesse, la faim, la crainte, la pauvreté hideuse, le trépas et Vincent Charpentier.
Christian Goudineau, merci beaucoup. Je rappelle que Postmortem se déroule actuellement au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière et est une exposition archéologique qui, pour une fois en France, fait appel à l'émotion. À voir aussi l'ouvrage scientifique « Rite funéraire à Luc Dunhomme » et redécouvrir aussi l'Énéide de Virgile qui vient de paraître aux éditions Diane de Cellier.
Qui pourrait me l'envoyer vu la pub qu'on lui fait.
La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à la France paléolithique. Le Salon Noir a été réalisé par Julie Bérissy à la technique Jacques Vincent.